Bonjour. Je vois quelqu'un qui normalement est avec moi. Voilà, c'est autorisé. Aujourd'hui, donc, quand le CIF m'a recruté pour faire un cours d'ecclésiologie, j'ai demandé, oui, mais quel est le programme ? On m'a répondu, ce que tu veux, mais il faut que tu parles du dialogue interreligieux et de l'œcuménisme.
Très bien.
Voilà. Et le reste, un peu ce que tu veux. Donc, aujourd'hui, j'ai intitulé ce cours « Vivre dans un monde pluriel ». Donc, je vais parler de la multiplicité des options religieuses de notre monde contemporain et essentiellement français, et je vais en parler vu du monde chrétien. Je ne vais pas parler, je vois le monde chrétien comme un tout. Les petites nuances entre les différents chrétiens, je vais faire comme si elles n'existaient pas pour aujourd'hui. J'ai mis en exergue une petite phrase de Mgr Clavery, évêque d'Oran, assassiné pendant la guerre civile en Algérie, qui était un grand théoricien, finalement, théoricien et praticien du dialogue avec, je dirais, l'autre, qui pour lui avait la forme de l'islam d'Algérie. Mais j'ai envie de parler plus de l'autre. Et il nous dit que l'autre, que tous les autres, soient la passion et la blessure par lesquelles Dieu pourra faire irruption dans les forteresses de notre suffisance, pour y faire naître une humanité nouvelle et fraternelle. Il y va de l'avenir, de la foi dans notre monde. Donc, c'est un petit peu sous le patronage de Pierre Clavery et de cette rencontre de l'autre au nom de Dieu qui nous rejoint à travers l'autre, que je voudrais travailler aujourd'hui. Le Dieu qui nous rejoint, pour nous, c'est clair, c'est le Dieu de Jésus-Christ. Alors, je vais d'abord parler un petit peu largement du paysage religieux contemporain. Je parlerai ensuite de ce qu'on appelle la théologie des religions. Et ensuite, je parlerai de la théologie, la pastorale, la pratique, la spiritualité, j'aurais pu rajouter du dialogue. Et je terminerai par une conclusion. Alors, je vous rappelle que vous trouvez sur le site internet du CIF ces diapos, mais qui chaque fois ont un grand commentaire dessous, que les numéros qui sont là, c'est simplement les numéros des diapos, donc c'est pas compliqué, et que donc moi je vais me servir de ça pour travailler. Puisque on commence par quand on parle de l'autre, très souvent on parle d'autres religions, mais pas seulement que d'autres religions, mais ça implique d'avoir défini qu'est-ce qu'on appelle une religion. Et on s'aperçoit que rien n'est moins simple. Déjà, l'origine du mot. Alors, vous savez que se dire le mot vient de telle origine, en latin, en grec, ça pourrait nous aider. Problème pour le mot religion, on entend que c'est du latin, hein, l'origine, quand on a un peu l'habitude. Mais on ne sait pas si ça vient du mot relegere ou religere. Dans le verbe relegere, il y a le lego. Le lego, c'est je parle, c'est la loi, c'est la loi également, c'est le je parle. Et le Cicéron dit, il s'agit de considérer soigneusement les choses concernant le culte des dieux. Pour Cicéron, qui quelque part est un athée, le culte, c'est du rituel social, beaucoup plus que du spirituel et du contact avec l'au-delà. Beaucoup de grands penseurs latins du tournant du 1er siècle sont en fait profondément athées. Sénèque, par exemple, les stoïciens. Mais ils sont très sensibles au fait qu'une société tient par des rites. Et quand les chrétiens, au 3e siècle, sont accusés de ne pas rendre un culte à l'empereur, ce qu'on leur reproche, c'est de ne pas se conformer aux rites sociaux. Au contraire, Lactance, qui est plutôt un poète, là vous êtes un philosophe, là vous êtes plutôt un poète, il va parler de religare, qui est un lien de piété. La piété, c'est la façon de se tenir avec la conscience qu'il y a plus grand que soi. Donc, le lien de piété qui nous unit à Dieu. Vous voyez qu'on a déjà deux façons de penser différentes. La façon du rite, qui est donc plutôt dans le lien social, et la façon du lien qui nous unit à plus grand que soi, on dirait peut-être à une transcendance. On n'est déjà pas d'accord dès l'origine. Alors je saute 20 siècles et j'arrive à Durkheim. Durkheim, un des grands fondateurs de la sociologie au tournant du 20e siècle, et qui essaie de définir ce qu'est une religion. Et qu'est-ce qu'il va dire ? Une religion est un système solidaire de croyances et de pratiques relatives à des choses sacrées, c'est-à-dire séparées, interdites, croyances et pratiques qui unissent en une même communauté morale, appelée Église, tous ceux qui y adhèrent. Alors, déjà Durkheim, ben c'est un occidental. Donc, il appelle ça une église. On va voir après que c'est simple ça. Mais il parle également de choses sacrées, c'est-à-dire séparées. Or, déjà, le christianisme, on va se demander là-dedans si c'est vraiment une religion, puisque justement, Jésus-Christ est là et le rideau du temple s'est déchiré. Il a aboli cette séparation entre l'homme et Dieu, puisque lui-même est Dieu qui est venu à la rencontre de l'homme. Système solidaire de croyances et de pratiques qui unissent en une même communauté morale. Là, bon, on veut bien à la limite appeler Église. Mais donc là, vous avez une définition qui, comme celles de Lactance et de Cicéron, sont occidentales. On est dans le monde, on n'est même pas dans le monde grec, et ne parlons pas des mondes asiatiques, africains, latino-américains. Mais, en gros, la question c'est, dans une religion, qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce qu'il y a un dieu ? Certains vous diront que le bouddhisme est une religion sans dieu. D'autres diront le contraire. D'ailleurs, il y a des pratiques du bouddhisme, surtout dans les pratiques populaires du bouddhisme, où il y a des présences de Dieu. Est-ce qu'une religion apporte un salut ? Est-ce qu'une religion, c'est une doctrine ? Auquel cas, est-ce qu'elle a une régulation ? Est-ce qu'une religion, c'est un culte, une prière. Des prières, les cultes, ce sont des rites. Les prières, on ne sait pas trop. Une spiritualité, c'est quelque chose de beaucoup plus individuel que des rites. Est-ce que ce sont des règles de vie? Est-ce que c'est un système d'organisation sociale? Dans l'hindouisme, il y a tout un système d'organisation sociale. On va avoir une session passionnante sur l'hindouisme au mois de février. Est-ce que c'est quelque chose qui permet de mieux comprendre le monde? Vous voyez, définir une religion, ben, c'est pas évident. Alors, au moment du concile, l'Église catholique s'est posé la question de l'autre, le fameux autre dont je vous parlais là, avec un nouveau regard. Jusque-là, on va le revoir, les autres, ils étaient là pour être convertis, pour éviter d'aller en enfer. Mais elle s'est posé la question de l'autre avec un nouveau regard, et dans le décret qui s'appelle Nostra Aetate sur les religions non chrétiennes, le concile a essayé une réponse qui est quelque part la réponse officielle du catholicisme au début des années 60 sur la définition d'une religion. Les hommes attendent des diverses religions la réponse aux énigmes cachées de la condition humaine qui, hier comme aujourd'hui, agite profondément le cœur humain. Qu'est-ce que l'homme? Quel est le sens et le but de la vie? Qu'est-ce que le bien? Qu'est-ce que le péché? Quelles sont l'origine et le but de la souffrance? Quelle est la voie pour parvenir au vrai bonheur? Qu'est-ce que la mort, le jugement, la rétribution après la mort? Qu'est-ce enfin que le mystère dernier et ineffable qui embrasse notre existence, d'où nous tirons notre origine et vers lequel nous tendons? Depuis les temps les plus reculés jusqu'à aujourd'hui, on trouve dans les différents peuples une certaine perception de cette force cachée qui est présente au cours des choses et aux événements de la vie humaine, parfois même une reconnaissance de la divinité suprême ou même d'un père. Cette perception et cette reconnaissance pénètrent leur vie d'un profond sens religieux. Les autres religions qu'on trouve de par le monde s'efforcent d'aller de façon diverse au-devant de l'inquiétude du cœur humain en proposant des voies, c'est-à-dire des doctrines, des règles de vie et des rites sacrés. Alors, vous voyez à la fois un problème, si je repars, excusez-moi, de ma problématique de l'autre, vous voyez à la fois une ouverture et quand même quelque chose d'assez auto-centré sur nous, dans la mesure où les questions qu'on prête aux gens sont les nôtres, nos questions de chrétiens, mais également une ouverture. Et vous voyez, dans cette définition, mais c'est une définition des religions, une grosse absence de l'athéisme, encore plus de ce qu'on appelle l'agnosticisme ou l'indifférence religieuse. Alors, ça, c'est le problème qu'on va avoir tout au long de cette séance, on va un peu mettre sur la question de la rencontre de l'autre, mais que la théologie, disons, de la dernière décennie du 20e et de la première décennie du 21e, a peut-être un peu trop limité à la rencontre des autres religions. Alors, avant d'aller plus loin, je vais essayer de vous faire un petit bilan des autres du christianisme. Entre guillemets, je les ai mis par ordre d'apparition à l'écran, comme disent. Le christianisme est né au sein du judaïsme, Donc, au début, c'est pas un autre. Jésus était juif. Personne ne niera ça. Il est né au sein du judaïsme, dans une cohabitation, une religion ultra-minoritaire, au sein d'un monde païen. Ce monde païen, ça veut dire qu'il a plein de religions, et y compris des agnostiques au niveau des élites de l'Empire. Et plein de religions traditionnelles, des religions à mystère, des religions plus ou moins rituelles. Donc, le premier de ces autres, c'est le païen. C'est pas vraiment ce qu'on appelle les gentils, c'est le païen qui s'intéresse au judaïsme. Puis petit à petit, le judaïsme va devenir un autre, puisque on est le christianisme va se séparer du judaïsme. Si je parle du christianisme occidental, qui est le seul que je connaisse vraiment, ce christianisme occidental va se trouver entouré uniquement des païens, des gens à convertir. Bon, il y a tous les hérétiques qu'il va falloir remettre dans le droit chemin, les ariens, etc. Mais il va se trouver entre païens et juifs pendant, jusqu'à Mahomet. Parce que soit les gens qu'il rencontre, c'est des païens, et on va essayer de les convertir, soit ceux qu'il rencontre, c'est des juifs, et on va essayer aussi, mais on ne va pas y arriver. Voilà. Les païens, ça marche finalement pas si mal. Globalement, petit à petit, on avance dans la conversion des païens. Donc, ça donne une image du travail qu'on fait pour le royaume. Je vous rappelle cette eschatologie. On avance vers le royaume puisque petit à petit, on convertit les païens. Et 622, qu'est-ce qui arrive ? Début de l'Égypte, c'est-à-dire ce qui est considéré comme la fuite à Médine de Mahomet, la fondation de l'islam. Un autre, avec un grand A, une puissance, et surgit, qui va bouleverser le christianisme, puisqu'il arrive après lui, et que ce face-à-face avec ce nouveau venu ne va pas s'arrêter. Ce sera toujours l'autre qui est tellement en face de nous que c'est le reflet, c'est une cohabitation qui ne cesse pas. Alors je vous rappelle, avec les avancées, les retours, Charles Martel qui arrête les Arabes à Poitiers, pendant quelques siècles, on va réussir à mettre la Méditerranée entre nous, encore qu'ils arrivent jusqu'à Vienne, ils arrivent jusqu'à Budapest, ils assiègent Malte. Ce face-à-face avec l'islam, qui est militaire pendant des siècles, il n'a pas cessé. L'islam, c'est quelque part l'autre avec un grand A pour le christianisme occidental. J'ai oublié les croisades avant. Ça n'arrête pas. Et c'est quelque chose d'extrêmement dérangeant pour le christianisme. Hier, j'étais dans le train et je préparais mon cours. Et j'avais à côté de moi un jeune homme dont j'avais bien compris qu'il était de confession musulmane et qui m'a dit « Mais vous ne croyez pas que l'islam, c'est la plus grande des religions puisqu'elle arrive en dernier ?» Voilà. Alors, et après, il m'a dit « Mais... » Et quand je lui ai dit « Mais Jésus est Dieu », il m'a dit « Mais personne ne m'avait jamais dit ça à propos des chrétiens. » C'est extrêmement important ce que je vous dis là. Il n'avait jamais entendu ça. Donc, ça veut bien dire que les chrétiens, nous ne savons pas dire quel est le sens de Dieu pour nous. Hein. Il m'a dit « Ah ben merci, vous m'avez appris quelque chose. » Je ne pense pas l'avoir converti pour autant, hein. Mais ce n'était pas mon but. Voilà. Bon, après ça, nous arrivons au temps où l'Europe occidentale, au 15e, au 16e, sort de son cocon, les caravelles partent sur les mers, et elle va, les Occidentaux vont rencontrer les grands systèmes religieux asiatiques. Alors, tous les païens qu'ils rencontraient, finalement, c'était des petits groupes, des petites civilisations, avec chacun leur petit dieu. Quand ils arrivent face à l'hindouisme, face au bouddhisme, ils arrivent face à des systèmes solides, des cultures solides. Donc ça résiste, et ça résiste encore. Et pour le christianisme, jusque-là, les païens, c'était des gens à convertir. Les musulmans, c'était l'infidèle. Là, on a à nouveau une interrogation dans quelle catégorie on va les mettre, ces gens-là. Ce d'autant plus, je vous ai parlé là du monde chinois, mais j'aurais pu parler du monde coréen, du monde japonais, du monde indonésien, que les systèmes asiatiques sont souvent des systèmes mixtes. C'est-à-dire que, je vous ai mis, que le monde chinois, il navigue entre taoïsme, bouddhisme et confucianisme, lesquels peuvent rentrer dans la catégorie religion, lesquels peuvent rentrer dans la catégorie système philosophique et sociaux. C'est extrêmement difficile de le savoir, mais l'Asie est capable de vivre dans un système, des systèmes un peu mixtes. Et je me rappelle d'un prêtre indonésien que je connaissais et qui me montre des photos de son île. Son île, c'est Timor. Donc Timor, c'est une île très chrétienne. Et il me montre des photos de rizières magnifiques. Vous savez comment sont ces rizières asiatiques. Et il m'explique, comme vous voyez, le champ est toujours découpé en 5 parties parce que ce sont... Et puis il commence à me dire... Je lui dis, mais c'est très syncrétique tout ça. Et il me regarde en éclatant de rire. Il me dit, mais Anne, toute l'Asie est syncrétique. Et c'était un missionnaire, un prêtre chrétien, docteur en théologie de l'Église catholique romaine. Hein? Donc, je précise. Bon, donc, ce monde asiatique, les Japonais, ils vont avoir leur shintoïsme au milieu des religions bouddhistes, des religions bouddhistes. Les Coréens, le chamanisme est encore très présent. Le christianisme, au moins sous sa forme occidentale, a toujours peur du syncrétisme. Alors, j'ai entendu une fois, nous, on s'inculture, c'est bien, les autres, ils sont syncrétiques, c'est mal. Oui, c'était une façon pour un missionnaire d'exprimer combien le christianisme avait des fois des catégories pas tout à fait claires. Voilà. Et en particulier à propos du culte des morts des Asiatiques, avoir un culte des morts avec des chrysanthèmes le 2 novembre, c'est bien, mais avoir un culte des morts avec de l'encens la veille de la fête du Tet, c'est pas possible, c'est syncrétique. Bon, faut pas non plus... voilà. Alors après, j'arrive au monde moderne et contemporain, qui est caractérisé par deux aspects. D'une part, la progression de l'agnosticisme, de l'athéisme, de ce que j'ai appelé le technicisme, de l'indifférence religieuse. Je reviendrai à ces deux points, j'ai une diapo pour chaque, même deux. Et d'autre part, alors que ça, on pensait que c'était une lame de fond et qu'on ne pouvait rien y faire, une résurgence des religions traditionnelles, des vaudous africains, des néopaganismes, des cultes celtes, des cultes inspirés des cultes amérindiens qui sont très très vigoureux en Amérique du Nord, et de toutes sortes de nouvelles religiosités. Donc, vous avez dans ce monde contemporain ces deux lames de fond qui, pour nous, sont extrêmement interrogatives. Je dirais que le monde français est peut-être plus marqué par ça, alors que le monde nord-américain est très marqué par les néopaganismes. peut-être le monde anglo-saxon aussi, en particulier avec les cultes celtes, néo-druidiques.
Oui. Quid de l'animisme en Afrique, qui est quand même la première religion dans beaucoup de pays? Vous le mettez dans le paganisme?
Religions traditionnelles, qui sont en fait des paganismes. Je mets un petit peu...
Et le New Age, vous le mettez où?
Dans le néo-paganisme. En gros, vous voyez ce que je fais, mais les catégories, c'est toujours un peu fragile. Mais en gros, là, je suis plutôt dans ce qui existe depuis la nuit des temps, même si ça a évolué. Alors que là, ces néopaganismes, c'est repris de toutes pièces à partir d'un matériau, de matériaux divers. Donc typiquement, là, je suis dans le New Age, alors que le vaudou, je serai là, au moins dans le vaudou béninois.
D'accord. Oui. Et alors, tout ce qu'on appelle piété populaire, on le met aussi là-dedans?
Le piété populaire traverse toutes les grandes religions. Et toutes les religions, grandes ou pas, ou petites, ou...
Voilà. C'est un fait commun.
C'est un fait global et commun. On y reviendra un petit peu, mais tout ce qui est piété populaire et traverse toutes les religions. Et le christianisme a toujours peur dans la piété populaire du syncrétisme. Est-ce que, une fois de plus, j'ai travaillé sur Lourdes, c'est toujours difficile, au lieu de piété populaire, toujours difficile de savoir si dans cette piété qui s'exprime à Lourdes, il y a une compréhension du mystère chrétien, et, c'est-à-dire un compagnonnage avec Jésus-Christ, ou est-ce qu'on est dans de l'eau magique ? Et je pense que ce n'est ni tout blanc ni tout noir. Il faut être très très méfiant dans un regard trop négatif sur la piété populaire. Alors je vais revenir sur le contexte contemporain. Oui, Olivier.
Je rebondis sur la question de la piété populaire. Si vous avez parlé de Lourdes.
Oui.
Comment on réconcilie ces apparitions avec le message initial, c'est l'évangile abandonné, puis après il y a des apparitions, il y a des messages qui sont donnés.
Alors c'est quelque chose sur laquelle finalement l'Église dans son ensemble, enfin l'Église dans sa forme magistérielle, théologique, etc., est très mal à l'aise. Tout d'abord, le fait de reconnaître les apparitions, c'est une affaire qui incombe à l'évêque diocésain. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que pour l'Église, ce n'est pas essentiel puisque ça ne remonte pas à Rome. C'est extrêmement important. Mais ça signifie aussi que du coup, les sensibilités locales vont s'exprimer plus ou moins fortement. Ensuite, donc, de même, le miracle également relève de l'évêque diocésain, la reconnaissance du miracle. Dans le cas des miracles de Lourdes, ce n'est pas l'évêque de Lourdes, c'est l'évêque du miraculé. C'est compliqué, hein, sur le plan droit canon. C'est toujours compliqué parce que il faut reconnaître le fait ecclésial que représente un rite, un lieu. Je vais raconter une anecdote. Un jour, vous ne savez pas que l'église d'Arles est dédiée à Saint Trophime. Trophime, T-R-O-P-H-I-M-E. Alors, est-ce que vous savez qui est Saint Trophime? Je vais vous le raconter. La légende provençale veut que celles qu'on appelle les saintes femmes, c'est-à-dire Marthe et Marie, c'est-à-dire également les deux Maries, Marie Salomé, etc. Bon, c'est pas très précis, hein, on est dans les légendes, débarquent avec au Sainte-Marie de la Mer, mais pas seules, et que dans ce bateau, il y a également Joseph d'Arimathie qui transporte le Saint Graal et qui va donner lieu à toute la légende du Saint Graal, de la chevalier du roi Arthur, etc. Et dans ce bateau, il y a un vieillard qui s'appelle Trophime, et qui va être allé à Arles, c'est juste un peu au nord, Arles, et installer l'église. Bon. Et l'église, la cathédrale d'Arles, s'appelle toujours Saint-Trophime. Le culte de Saint-Trophime est très fort au Moyen-Âge. Et je me rappelle, quand je suis rentrée dans ma belle famille, qui est provençale, comme la mienne d'ailleurs, un oncle de mon époux nous dit « Quelle importance que Trophime n'ait jamais existé, ce dont on est sûr, c'est que la foi que cette église a été fondée et que cette église est millénaire a toujours existé. » Et cette foi, c'est ça qui nous fait tenir debout. Vous voyez ? Et donc, finalement, qu'est-ce qu'aperçut Bernadette ? J'en sais rien. Mais ce dont je suis certaine, c'est que les pèlerins ont foi, que leur pèlerinage a un sens ecclésial, un sens spirituel. Vous voyez ce que je veux dire ? Et l'expérience spirituelle de Bernadette, je suis certaine qu'elle en a une, mais la qualifier, j'en suis pas... je ne sais pas comment la qualifier. Et les catégories du vrai et du faux ne sont pas bonnes. Ce qui fait que ce n'est pas les apparitions qui sont reconnues par l'Église, pour l'instant par l'évêque, qui était évêque de Tarbes à l'époque, c'est le culte qui est autorisé à cet endroit-là. C'est extrêmement différent. Vous voyez ? C'est que le culte qui se fait là est fécond pour les personnes et pour l'Église.
Parce que l'essentiel n'est pas justement que ceux qui sont allés à Lourdes, en fait, moi, j'y crois dans la mesure où les personnes qui sont allées se sont transformées dans la bonne direction. C'est là le signe. Voilà, il n'y a que ça qui compte.
Voilà,
hein, qu'elle soit habillée en bleu avec une robe rouge.
Voilà, je suis tout à fait d'accord. Et c'est pour ça que finalement, là où l'Église a une certaine sagesse, c'est que ce qu'elle reconnaît, c'est la légitimité du culte, c'est pas la véracité des apparitions. Où là, elle ne se prononce pas.
Même encore aujourd'hui, sur nous ?
Oui, c'est le droit canon, hein,
d'accord.
Qui a une certaine... Oui.
Donc,
quelle est la position alors du Vatican sur l'Europe ?
Eh bien, c'est le principe de subsidiarité, puisque l'évêque de Tarbes, qui était évêque de Tarbes en 1858 et dans les années qui suivent, a décidé que le culte était légitime, le Vatican reconnaît ce que l'évêque a fait. C'est le culte qui est légitime.
Non, il y a d'autres cultes qui ne sont pas reconnus sur d'autres apparitions.
Voilà.
Ils ne sont pas validés.
Voilà, mais après, il y a toujours les questions politiques locales qui sont très très complexes. Hein. Je ne vais pas me mouiller parce que sinon, on n'arrivera pas au bout des religions si on peut passer 2 heures sur le monde et les autres apparitions. Alors, je reviens au contexte contemporain, tout d'abord des nouvelles formes du religieux. Alors, au niveau du religieux, je vous disais, le religieux est toujours très présent dans le monde contemporain. Mais ce qu'il y a, c'est une transformation que j'ai appelée la déconnexion du religieux et du culturel qui reconfigure profondément le religieux. Alors, que je vienne à un monde qui nous a précédés. En gros, vous aviez des grandes aires géographiques, grandes ou plus petites, et on vous disait, telle aire géographique, c'est telle religion. Alors, il y en avait une ou il y en avait juste une ou deux. Et à l'intérieur de cette aire religieuse, tout était un peu lié. La culture, les systèmes symboliques, les habitudes de vie, les représentations, les institutions sociales fonctionnaient ensemble. Vous aviez des grandes aires musulmanes, mais l'aire musulmane indonésienne avait sa propre culture par rapport à l'aire musulmane, à la zone musulmane, par exemple, d'Afrique du Nord. Mais il y avait une espèce de connexion culturelle entre les systèmes religieux, les systèmes d'institutions, les systèmes symboliques, les systèmes de représentation, les façons de manger, les façons de se vêtir, les jours fériés, enfin, toute la vie humaine. Les philosophes, les sociologues appellent ça un ethos. E-T-H-O-S, c'est un mot grec. On a une espèce de nostalgie de cette époque. Quand vous regardez des cartes, des conflits, par exemple, moyen-orientaux, on vous met des couleurs avec les zones chiites, les zones sunnites, comme si ceci était encore valable. Le problème, c'est que, je dirais depuis la Seconde Guerre mondiale essentiellement, même si ça a commencé avant, on est dans un monde de très très grande mobilité géographique, de très grande migration, et donc on a une déterritorialisation de ces cultures, de ces religions, etc. Et on a des individus qui sont séparés, des individus ou des familles nucléaires, dans le meilleur des cas, qui sont séparés de leurs environnements culturels globaux. Et du coup, ça entraîne des reformulations du religieux auxquelles on va reparler, parce que ça se déconnecte du culturel, et la tendance, ça va être d'aller soit vers l'indifférence religieuse, de l'ingré, de celui qui n'est plus porté par une culture, par un ethos, par des habitudes, il va aller soit vers l'indifférence religieuse, l'agnosticisme, on va le revoir après, soit vers la recherche d'un religieux pur, j'ai mis entre guillemets. Et on va... donc il va essayer de reconstruire des traditions. Il va y avoir un certain raidissement. Et avant de pour commenter un peu plus là, je vais revenir à la grande sociologie religieuse du début du XXe siècle avec deux autres auteurs. Je vous ai parlé de Durkheim. On est dans les débuts de la sociologie religieuse. On essaye de penser avec... N'oubliez pas, le scientiste, il a une méthodologie athée, le scientifique, hein, même s'il ne l'est pas. Et après Durkheim, qui a essayé de définir le religieux, je vous parlerai de deux grands auteurs, Max Weber, qui est très connu, et un qui l'est moins, qui est Ernst Troeltsch. Troeltsch, j'arrive jamais à le dire, et heureusement que Windows, c'est l'orthographe de Troeltsch, parce que moi je fais toujours une faute, mais Windows la trouve. Bon, alors Weber a travaillé... N'oublions pas, Weber, je crois qu'il est allemand, en tout cas il est occidental, et il travaille sur les religions, ce qu'il appelle les religions à l'époque, qui sont en fait, pour lui, des juifs, en petite quantité, des catholiques, et une multitude d'églises protestantes, et une multitude de groupes protestants. Justement, je ne vais pas parler d'églises. De groupes protestants... qui sont nombreux en Europe occidentale. Et il va dire, ben voilà, il y a deux types de fonctionnement sociologique. Il y a le type qu'il appelle église, qui sont ce qu'il appelle des institutions de salut, parce qu'il reprend la Durkheim, mais qui ont comme particularité de participer à la culture de leur société, de dialoguer avec l'État, qui passe des compromis avec ce qu'on appelle le monde, et donc qui permettent une adhésion large et avec des exigences religieuses et morales relativement minimales. Vous communiez une fois par an et vous êtes catholique. Vous voyez ? Donc là, on est dans ce qu'on appelle la forme église, dont on va dire en théologie ecclésiale, je ne l'ai pas mis sur la feuille, qu'elles sont multitudinistes. On s'adresse à tous, on ne demande pas aux gens d'être une élite spirituelle, morale, de pratique religieuse. Et il va parler du type secte. Vous attendez que je sois venue au monde, au bout pour expliquer ce type secte et mes raisons éthiques, qui sont des types beaucoup plus petits, des rassemblements volontaires et minoritaires, je n'ai pas mis, d'individus, éventuellement de familles, mais ce sont des individus qui ont fait explicitement ce choix, qui sont assez critiques, voire dénonciateurs à l'égard des États, de la culture, qui sont plutôt en rupture avec le monde et qui exigent de leurs membres un engagement religieux et moral élevé, visible et vérifiable.
Et financier.
Oui, mais là, c'est une des façons d'être visible et vérifiable. Et voilà, je suis d'accord avec vous, mais ça, c'est une des façons. Ça peut être aussi d'aller faire du porte-à-porte tous les samedis, hein, pour convertir. Ça, c'est un engagement visible et vérifiable. Alors là, c'est Max Weber, qui est très sociologue. Troeltsch, lui, c'est un théologien de la spiritualité, en plus d'être sociologue, et donc il va rajouter ce qu'il appelle le type réseau mystique, qui valorise l'expérience immédiate. Immédiate, ça veut dire personnelle, soi-même en relation avec le divin, avec je ne sais quoi, et les liens interpersonnels, et avec cette notion, signant d'initiation et de secret, au moins de groupe qui partage. Alors,
la franc-maçonnerie,
dans le niveau 7, je crois. Mais je ne sais pas si on peut la mettre là, parce qu'on est dans le religieux, là. Alors qu'ils ne sont pas forcément religieux. Je ne sais pas. Ou peut-être réseau mystique. En tout cas, pas église.
L'institution de salut qui participe à la culture de leur société.
Oui, mais ils sont secrets. Ils sont secrets, il y a initiation, il y a engagement volontaire et individuel. Donc, ça ne peut pas être... Ça
peut pas être. Ils sont en rupture avec le monde, ils sont au contraire pour faire évoluer.
C'est eux qui disent qu'ils ne sont pas en rupture avec le monde. Mais non, on ne va pas revenir, je ne sais pas trop, parce que je ne sais pas si on peut la mettre dans le religieux ou pas.
Non.
Voilà, hein, je ne sais pas.
Ça dépend des loges.
Alors voilà, mais puis c'est très compliqué, parce que je ne sais pas si le déiste est religieux en plus. Hein. Bon, mais ce que je veux dire là, c'est que dans l'idée de Weber et de Troeltsch, ces deux modèles, la secte et le réseau mystique, ne sont pas nécessairement mauvais, est un mauvais terme, mauvais, négatif. Par contre, ils permettent la dérive. Dans la mesure où il y a défiance avec le monde, vis-à-vis du monde, il y a une rupture, il y a une dénonciation.
Un abus aussi.
Il peut y avoir une dérive et des abus. Ça ne veut pas dire que c'est obligatoire dans le type secte au sens de Max Weber. Hein.
Ça veut dire qu'il pourrait y avoir de bonnes sectes.
Pour Max Weber, oui. Certaines églises protestantes évangéliques sont des sectes.
D'accord.
Au sens de Max Weber du terme.
D'accord.
Ça ne veut pas dire qu'elles sont... donc au sens de Max Weber, il peut y avoir des bonnes sectes. Et donc c'est extrêmement important de voir que le terme secte, c'est pour ça que je l'ai mis entre guillemets, a évolué depuis Max Weber dans notre langage, mais que je suis obligée de l'employer parce que j'en ai pas d'autres.
Mais c'est-à-dire que nous, quand on pense secte, on pense tout de suite dérive sectaire.
On pense dérive. Alors que pour Max Weber, il pense petites églises.
C'est ça, l'éthique du protestantisme.
Et qui, dans le protestantisme, sont fréquentes.
Oui.
Hein? et le type réseau mystique également. Deuxième chose.
Moi, je vois pas très bien ce que c'est le type réseau mystique.
Le type.
Par exemple,
New Age. On partage son expérience, ses retraites, ses expériences de méditation, de jeûne, etc. Non, enfin, toute cette sphère, voilà.
Ou l'hypnose, ou les esséniens.
Voilà, hypnose, esséniens, etc. Hein? Ce que j'allais aussi vous dire, c'est que ces types, que ce soit sectes ou réseaux mystiques, quelque part, ils ne sont même pas réservés aux religieux. Je dirais que les groupes véganes, ils ressemblent à ça. Ils ont l'expérience que ça leur permet de vivre quelque chose de beaucoup plus essentiel. Il y a une défiance vis-à-vis du monde. Vous voyez ce que je veux dire ? Certains peuvent aller jusque-là. Après, il y a des gens qui sont véganes individuellement et sans faire de mal à personne, mais il y en a qui fonctionnent comme ça. Alors, ce qu'il y a de certain, c'est que dans ce monde contemporain dont je vous parlais là, totalement déconnecté du culturel, les types sectes, sans que ce soit forcément de façon négative ou réseau mystique, sont beaucoup plus faciles à exister que le type église. Parce que comment on fait pour être en dialogue avec son monde contemporain, sa culture, etc., et ultra minoritaire. On ne sait pas. Hein. C'est notre mission pour notre génération et les suivantes.
Okay, oui.
Voilà. Alors, ces deux types sont les types, entre guillemets, faciles pour le religieux contemporain. Maintenant, le contexte contemporain, c'est pas seulement la persistance du religieux, c'est aussi ce monde sécularisé, donc ce qui signifie que la religion petit à petit s'est fait éjecter de l'humain quotidien, alors que ça s'est fait progressivement, hein, sur plusieurs siècles. Bon, la laïcité, pour rappel, la loi 1905. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle assoit la liberté religieuse et la non-reconnaissance d'aucun culte par l'État. Donc, en principe, c'est une loi simple et positive. Après, il y a une lecture de cette loi qui tente à reléguer le religieux dans l'espace privé, peut poser des questions. Je vais parler de ce qu'on appelait la modernité. La modernité, on l'a fait remonter dès le 14e. Hein. C'est petit à petit la prise de conscience de la valeur de chaque individu qui porte en lui l'humanité. Chaque homme est le représentant de l'humanité tout entière. Il est quelque part. Cette modernité où l'individu représente l'humanité tout entière, c'est héritage du christianisme, de l'homme créé à l'image de Dieu. Ça veut dire que cet individu est totalement libre et que son individualité est aussi importante finalement que l'ensemble de la société, ce qui pose la question du bien commun de l'individu. Alors après, j'ai mis deux grands mots, qui sont postmodernité et ultramodernité, qui sont très querellés par les philosophes, les sociétés, les sociologues et autres penseurs contemporains depuis les années 80. En gros, les postmodernes sont ceux qui vont dire que le rêve de la modernité, le rêve de l'émancipation, de la liberté, du progrès, est un rêve qui arrive à sa fin. Et on va dire qu'on est à la fin de ce qu'on appelle les grands récits, les grandes utopies. Les grands récits, le marxisme a été un grand récit. Le progrès a été un grand récit. L'ultramodernité, au contraire, le progrès continue. La liberté s'affirme de plus en plus. Et les individus sont de plus en plus libres de se construire, de devenir plus qu'eux-mêmes. Et donc, tous les mythes qui en résultent, de transhumanisme, d'homme augmenté, font partie plutôt de l'ultramodernité. Et tout ça, sur fond de ce que j'appelle un paradigme technocratique, scientifique, tout ce que vous voudrez, c'est-à-dire d'une idée que la science et la technique permettent une certaine maîtrise du monde, du social, de l'avenir, de la maladie, de la santé, voire du donné créé. Alors tout ça, ça se tamponne, il y a mélange de toutes ces questions. On est vraiment dans une époque où il faut tout redéfinir, mais ce qu'il y a de certain, c'est que ça favorise à la fois une indifférence religieuse extrêmement forte. On estime qu'en France, l'indifférence religieuse, c'est-à-dire « j'en ai rien à faire, ne m'interrogez pas sur cette question, je ne me pose aucune question », c'est à peu près 30% de la population. Et qu'on appelle une crise du sens, finalement, quel projet politique, qu'est-ce que c'est que le bien commun, etc. Alors qu'on est quand même sur fond d'angoisse. Angoisse écologique, angoisse des différences de la... angoisse écologique au sens large, angoisse de la pauvreté, angoisse du progrès dont on se rend compte qu'il n'est pas forcément si net que ça. Donc, on est dans un paysage complexe sur le plan religieux et il va nous falloir réfléchir à tout ça. Donc, on va un peu plus loin. Alors, où je mets la franc-maçonnerie là-dedans, c'est certain que c'est quelque chose qui est dans l'individualisme, l'émancipation, la foi au progrès. Après, le fonctionnement sociologique est plutôt un fonctionnement sectaire, pas forcément en dérive, mais puisqu'il concerne des individus qui ont fait un choix explicite et qui vivent entre eux, même si c'est pour porter la bonne nouvelle au monde. Quelque part, les témoins de Jéhovah aussi ils portent la bonne nouvelle au monde. Hein. Vous voyez ?
C'est pas marrant, d'ailleurs.
Mais bon, j'en sais rien. Peut-être que la trompe papa et ça les nourrit. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais on n'est pas dans du religieux, on est plutôt dans quelque chose qui favorise l'indifférence religieuse ou un théisme. Théisme, est-ce que c'est vraiment le Dieu de Jésus-Christ ? Je n'en suis pas persuadée. Voilà. Mais ça, c'est une opinion. Non, ce n'est pas une opinion personnelle, c'est une opinion de foi.
Mais c'est ça, ils ont. Ouais. Le théisme, on entend ça partout. Les gens veulent bien croire en Dieu, mais pas en Jésus.
Eh bien, c'est un petit peu un de nos enjeux. On en reparlera en fin du cours, là. Alors, pour nous, chrétiens, on a trois types de questions. Les questions pratiques. Mais comment on va faire pour vivre ensemble ? Et vraiment des questions pratico-pratiques. Comment on s'habille ? Qu'est-ce qu'on mange ? Est-ce qu'on peut manger ensemble ? Quels sont nos jours fériés ? Quelles sont les expressions rituelles publiques ? Est-ce qu'elles sont tolérables ou est-ce qu'elles ne le sont pas ? Dans quelles limites ? Vous voyez, on est dans du concret concret.
Et qui régit cela ?
Et voilà, grosse question. On va rester aux questions là. Hein.
D'accord.
Bon, ben on veut bien échanger, on veut bien discuter, on veut bien dialoguer, mais avec qui, où, quand, comment, pourquoi ? On ne sait pas. Oui ?
Il y a un truc qui accroît la pertinence de ces questions, c'est que les réponses de l'histoire jusqu'à maintenant, c'était on n'y arrive pas à vivre ensemble avec les autres.
Alors, est-ce que c'est...
On va au Concile de Trente si on regarde tout ça.
Oui et non. Je ne suis pas sûr que dans l'Empire ottoman, qui n'avait pas que des qualités, ils n'avaient pas trouvé une solution pour le vivre ensemble. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas parce que l'Occident n'y arrivait pas que les Turcs ne sont pas parvenus. Et finalement, le Levant va beaucoup plus mal depuis que c'est l'Occident qui le gère que quand c'était les Turcs qui le géraient, sans venir, sans prétendre que l'Empire ottoman c'était des enfants de cœur.
En Syrie,
ils avaient trouvé une façon du vivre ensemble entre chrétiens, musulmans et juifs.
À Tolède aussi.
Il y a même dans des traits culturels, hein, il y a plein de communications qui sont passées dans l'histoire, juifs, musulmans, chrétiens.
Il y en a qui
se passaient parfaitement bien.
Voilà. Donc, il y a des lieux où on n'a pas su faire, mais il y a des lieux où on a su faire. Le syncrétisme chinois et il y a un politique qui demande de ne voir qu'une seule tête, mais sur le plan religieux, est assez souple. Le problème, c'est que les grandes religions, ça ne marche pas dans le je ne veux. Enfin, les grandes religions qui sont l'islam et le christianisme ne se fondent pas dans le je ne veux voir qu'une seule tête du politique chinois. Mais tout ce qui est chamanisme, hindouisme, c'est très bien toléré par la société multiculturelle chinoise. Donc, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, je ne sais pas si c'est vrai. Nous, on ne sait pas faire. Alors après, je reviendrai peut-être à ces questions en conclusion, pour ne pas avoir de réponse, mais pour avoir peut-être un petit chemin. On a des questions que je rappellerai beaucoup plus théologiques. En gros, les non-chrétiens sont-ils sauvés ? Pourquoi est-ce que c'est Dieu qui veut qu'il y ait plusieurs religions ? Pourquoi Dieu a-t-il parlé à Mahomet après Jésus ? Et puis on a des questions que j'appellerais spirituelles ou pastorales. Comment vivre en chrétien ? Et puis j'ai rajouté « et en église ». Et quand je dis « en église », ça veut dire qu'à la fois on est un visage d'une église unie, à défaut d'être unique, mais pas uniforme, et à la fois qu'on est, on ne vit pas dans un des types dont je vous ai parlé, secte ou réseau mystique, qui vit en bulle. Voilà. Et donc, c'est les questions qu'on verra dans la deuxième partie. On peut prendre un peu quelques questions, et après on prend un petit peu. Bérangère, tu peux dire un mot ? Eh bien, je vous laisse.
C'est sûr que là, on va être confronté en tant que chrétien à tout ce qui est la question du transhumanisme et de ce fameux homme augmenté.
Entre autres, oui.
Parce que ça,
on va y revenir un peu après.